ces cas ne sont pas des cas isolés. Hein. On retrouve régulièrement des corps donc sur les plages. Donc dernièrement, en février, 74 corps. Plus loin, déjà en juillet, juin dernier, 87, 104 morts. Donc les chiffres, on les connaît. C'est malheureusement presque banal, des morts, donc de personnes, pour la majorité, des subsahariens. Ben, ils sont à la merci des passeurs.
Alors même qu'il y a l'opération Sophia qui a été lancée tout spécifiquement au large des côtes libyennes.
Depuis déjà quelques années, on voit qu'il y a des opérations qui sont faites par des agences sous-traitées par l'Union européenne. Et on parle de sauvetage de ces migrants, mais en réalité, vous voyez que les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Que faire, selon vous, pour améliorer le sort des migrants clandestins qui transitent par la Libye, par exemple, dans un pays où il n'y a pas d'institutions qui sont en place ou qui fonctionnent?
Il n'y a pas d'État du tout en Libye.
C'est ça, il n'y a pas d'État qui fonctionne.
Il n'y a pas d'État du tout.
Alors, que faire?
L'accord qui a été signé entre l'Union européenne et la Turquie, avant, donc si on regarde les chiffres, en 2016, il y a à peu près, de mémoire, 880 000 personnes qui ont transité par la route des Balkans pour aller dans un des pays de l'Union européenne. Donc depuis que cet accord existe avec la Turquie, ces 800 000 qui vont essayer de chercher d'autres voies, et il y a un rapport d'Europol Interpol qui a été fait en 2016 qui prévoit que en Libye, il y aurait près de 800 000 personnes qui pourraient transiter par la Libye. Donc, que faire? Déjà, il faudrait trouver des solutions dans les pays eux-mêmes, arrêter les conflits, la situation en Syrie, la situation en Libye, donc, et où les États européens ont largement contribué à la déstabilisation de ces États, développer ces pays. Et puis, même si aujourd'hui l'extrême droite est prégnante un peu dans certains pays de l'Union européenne, essayer de sensibiliser les gens à accueillir sur le sol européen donc les migrants qui n'auraient pas pu faire, qui n'ont pas pu faire autrement. Et là, on se dit que l'Union européenne n'arrive pas, ou bien certains pays européens qui sont quand même plus structurés, plus sûrs en termes économiques, en termes sécuritaires, qui n'ont pas tous les problèmes que connaît actuellement la Tunisie, donc sont incapables de traiter, de gérer ces demandes par eux-mêmes, et donc les sous-traiter auprès de pays bien plus démunis, donc il y a quelque part un problème.
Et vous critiquez également la position de l'Allemagne qui essaie d'imposer le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais aussi l'Égypte comme des pays sûrs. Qu'est-ce qui vous gêne?
Donc là, appeler un pays sûr, c'est que sécuritairement, les personnes n'ont pas à craindre ni pour leur vie, ni donc d'avoir des traitements inhumains ou dégradants dans ces pays-là. Donc pour la Tunisie, ça ne fait que 6 ans que nous sommes dans un processus de transition démocratique et aujourd'hui, nous n'avons aucune loi en ce qui concerne par exemple la Tunisie pour l'accueil des réfugiés. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de moyens, même financiers, pour accueillir ces gens-là. Et puis, on est encore loin. Vous savez, il y a eu le rapport de l'ONU sur donc le Committee Against Torture, qui a fait donc en 2016 un constat quand même alarmant sur les violences policières qui sont récurrentes, sur la situation dans les prisons, etc. Donc, on ne peut pas dire que la Tunisie, à ce stade, soit un pays qu'on pourrait appeler de pays sûrs. Et pour les autres pays, alors c'est l'Algérie, donc on s'en voit ce que c'est. L'Égypte, malheureusement, a raté sa trajectoire. Hein. Aujourd'hui, c'est un pays qui est autoritaire, où les droits de l'homme ne sont pas garantis du tout. Donc de la part de l'Allemagne, vous essayez de qualifier ces pays de pays sûrs et quand même scandaleux.